Bonjour, je suis Mads Mikkelsen et vous écoutez Pop Pop Pop. Et Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si demain je serai en mesure de le faire, rapport à la grève générale qui s'annonce. Aussi ai-je décidé aujourd'hui de mettre les bouchées doubles en invitant le jeune acteur qui monte, le jeune acteur que tout le monde s'arrache et conséquemment le jeune acteur qui déchire. Non, je ne parle pas de mon confrère Stéphane Bern qui vient à son tour tâter de la comédie puisqu'on pourra bientôt l'applaudir sur France 3 dans Meurtre en Lorraine, un téléfilm policier tourné en Lorraine donc, à Beach. Beach, c'est le nom de la ville de Lorraine où se déroule l'action et non celui du personnage interprété par Stéphane qui délaisse donc chef-d'œuvre en péril, tête couronnée et autres pompes assirées pour se glisser dans la peau d'un gendarme consentant. Non, je parle d'un autre beautiful boy, le jeune et prodigieux Timothée Chalamet qui transforme l'essai de Call Me By Your Name avec un film bouleversant, Beautiful Boy justement, et qui a pour sujet la difficile relation entre un père et son fils aussi dépendant aux drogues dures que les Stéphane Bern aux vieilles pierres. Timothée Chalamet est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, l'autoroue de la pop culture, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
Oh, quelle est belle cette voix.
Non, c'est pas le terme exact.
Oh, qu'elle est sensuelle. Au menu donc de Pop Pop Pop. Timothée Chalamet! Nous sommes allés à la rencontre de ce Beautiful Boy qui vient nous parler justement du film Beautiful Boy qui sort après-demain, mercredi. Au menu également de Pop Pop Pop.
Super Bowl.
Eh oui, on va débriefer l'événement pop de ces dernières 24 heures. C'était cette nuit à Atlanta. On va en parler tout à l'heure dans les Pop News. Et en fin d'émission, on parlera de lui.
I'll be back.
Enfin, on va pas parler de lui, mais avec Jérôme Momcilovic, le réalisateur d'un doc qui décrypte le phénomène pop Schwarzenegger. Ce sera tout à l'heure. Mais avant ça, quand on a Timothée Chalamet au micro de Pop Pop Pop, on lui pose évidemment la question que tout le monde se pose. Et cette question, c'est... Timothée Chalamet, êtes-vous célibataire? Mais non, pardon, on n'est pas sur Énergie 12. Cette question dans Pop Pop Pop, c'est...
Timothée Chalamet, c'est quoi pour vous la pop culture?
Je pense que ça change et on peut avoir un sens négatif de ce côté ou on peut avoir un sens optimiste. Du côté négatif, on peut dire for pop culture, c'est pas comme dans les années 90 ou 2000 où il y avait... soit les médias, soit les studios énormes, centralisés, où c'était clair quand quelqu'un mettait des vêtements s'ils n'étaient pas à la mode, parce qu'il y avait un mode central. Il n'y a pas un mode central maintenant parce que il y a l'internet, il y a les cultures, dans les cultures, subcultures, et le façon négative de voir ça, c'est se dire, il n'y a pas un milieu pop culture maintenant. Mais le côté optimiste, c'est se dire que c'est plus égalitarien, c'est plus organique, que le pop culture se trouve moins maintenant, dans un pub, mais plutôt sur, je veux pas dire les réseaux sociaux parce que that feels très cliché, mais je sais pas, dans l'expérience humaine, je sais pas.
Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Timothée Chalamet est pop, il est donc pop pop pop. Et on continue à parler de pop, de culture et de pop culture juste après Fit. C'est un morceau signé du groupe de rock anglais Fat White Family.
I've been not believe it, could not believe our eyes. The thing that I saw down there, down between her thighs. I can see it over and over. We'll
sitting on his pride. When I look at women, what I see is other men. Fold them just like cattle, fold them like Sean Penn. The sea washed off my features, perfect mouth swans. Nothing to diminish and nothing to enhance. Gigi heavy tears in a Woody Allen dirt. This one's on a crusade, this one's stuck at work. I hope the children wash up blood on my shore. Caucasians see me in a sand.
Le rock britannique de Fat White Family et ce morceau Fit. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un des meilleurs acteurs de sa génération. Mais avec qui avons donc nous rendez-vous aujourd'hui? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, un pop portrait, ben, c'est son portrait. Mais... Et c'est signé de sa voix claire et cristalline des grands jours, de Charline Roux.
Une scène, il a suffi d'une scène d'un ado amoureux et triste pleurant face caméra dans Call Me By Your Name pour qu'un jeune comédien certes prometteur se mue en petit miracle de cinéma. Alors pardonnez l'emphase, mais en fait je pèse mes mots. Timothée Chalamet est celui-là, le genre d'acteur à potentiel émotionnel au maximum du curseur. Avant la déferlante fruitée Call Me By Your Name, on avait croisé son frais et frêle minois dans la série Homeland, dans Interstellar ou encore pendant et après le rôle qui lui a valu une nomination à l'Oscar, on l'a croisé dans Hostiles et Lady Bird. Et avant de le voir dans le prochain Wes Anderson, en Laurie dans Les Quatre Filles du Docteur March de Greta Gerwig, dans un remake de Dune par Denis Villeneuve, en Henri V chez David Michaud et éventuellement de nouveau dans La Peau d'Elio pour la suite de Call Me By Your Name, il est aujourd'hui le beautiful boy en proie à de sévères addictions face à un Steve Carell tout aussi dément que lui dans le film de Felix von Groningen qui sera sur les écrans mercredi.
Merci Charline, mais dites-moi,
je vous en prie.
Un petit peu en roue
de poésie. C'est excellent. C'est excellent.
Je la refais en roue et...
C'est douloureux quand je
ris. Bien. Timothée Chalamet est de retour dans Pop Pop Pop, ce qui veut dire que je lui ai déjà demandé son film, son livre, sa musique et sa série culte. Et rappelez-vous, ça donnait ça.
Eminem. Evening, Commissioner. Wikipedia is the best thing ever. Why so serious? You are getting the best possible information.
Mais oui, vous aurez reconnu The Office, The Dark Knight de Christopher Nolan et Butterfly Effect de Travis Scott. Vous l'aviez reconnu, Charline?
Absolument, Antoine.
Vous êtes décidément en roue.
Et vous, en roue libre.
Mais oui, toujours. Alors, comme Timothée Chalamet est déjà passé dans mon mixeur de pop culture, cette fois-ci, je lui ai demandé ce qu'il attendait cette année sur la planète pop. C'est l'heure de sa liste. Hop. On va commencer par le film.
Cette année, je viens de voir en français, mon ami Stefan Bach a fait le voix pour Spider-Man, le nouveau animé, c'est vraiment super, et du coup, je suis pas le seul à le dire, ça gagne beaucoup de prix aux États-Unis, là.
Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. J'ai sauvé la ville, je suis tombé amoureux, et après, j'ai sauvé la ville encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Je suis partout, dans des comics, sur des paquets de céréales, j'ai même fait un album de chant de Noël, et je suis une glace assez bof. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant.
Spider-Man. Il déboule au bout de son fil une fois par jour, bim bam boum derrière son masque et il rend compte à personne. Je t'aime, Miles.
Ouais, je sais, papa.
C'est là que tu réponds, je t'aime.
Non mais t'es sérieux?
Vas-y, je t'écoute.
T'as vu où on est?
Papa, je t'aime.
Papa, je t'aime.
Reçu 5 sur 5.
Je m'appelle Miles Morales. Je suis le seul et unique Spider-Man. Du moins, c'est ce que je croyais.
L'accélérateur de particules, tu connais? Tu vas adorer.
Dimension en cours d'ouverture.
Tu es comme moi?
Comment c'est possible?
C'était ouais. Parfait.
Ouais.
Un livre?
Un livre... j'ai lu un truc plutôt côté philosophie, je pense, mais... Fernando Pessoa, The Book of Disquiet. C'est vraiment... Il a passé un vie de l'autre côté d'un acteur... Si d'être acteur, c'est de, même si tu essaies de l'ignorer en toute capacité, c'est de avoir même un petit peu une conception de soi-même. Fernando Pessoa, c'était un écrivain portugais qui avait écrit des philosophies, des conceptions de la vie, du monde en privé pour 40 ans. Il avait un boulot indépendant de la philosophie. On n'avait rien lu sur lui pour 30 ans, 20 ans. Et il y avait des profs portugais 30 ans après qui ont trouvé ces notes et qui se sont dit, mais ça, c'était un gars extraordinaire. Beaucoup de ces notes se disaient, je me sens comme gars extraordinaire, que quelqu'un, que personne le sache. Alors de lire ça, c'est vraiment de l'autre côté de l'acting, de l'acteur. Alors, j'ai pas tout lu, mais c'est ça le livre cette année, pendant que je tournais en Europe, en Hongrie, en fait, que j'ai beaucoup aimé, ouais.
Ok, une chanson?
Une chanson de cette année.
Beautiful Boy.
Il voit German or Treasure by Sampha, le chanson à la fin.
To live my life in the wind, and I would fly wherever it was swim. I couldn't stand by you or anything. Sky shivers, they turn to rain.
À la fin du Beautiful Boy, parce que Sampha, c'est la fin, c'est au, parce que c'est ma chanson la plus préférée dedans, mais aussi Sampha, pour les gens qui le connaissent pas, c'est vraiment il a la jalousie de beaucoup de gens dans le dans la musique, parce que il est connu, mais il s'est vraiment gardé privé aussi, et c'est vraiment un artiste extraordinaire. Et il fait beaucoup de piano. Ouais, il est super.
Et pour finir, une série.
Une série. On m'a dit que je devrais commencer à regarder Big Mouth sur Netflix. Alors je devrais regarder ça.
Dans toutes les vidéos éducatives, la puberté des garçons, c'est toujours le miracle de l'éjaculation.
Oh, non, je me suis jamais arrosé comme ça.
Et pour les filles, c'est une mauvaise histoire de tuyauterie périodiquement douloureuse.
Hier soir, j'ai vu le pénis d'Andrew.
Mais à quoi tu joues?
Oh, misère!
Et donc, aujourd'hui, tu as peur d'être un homosexuel. Mais un homme peut toucher le pénis d'un autre homme.
Ça ira, là.
Ou même l'embrasser avec délicatesse.
Ok.
C'était pas trop fort.
J'ai trouvé ce passage un peu déplaisant.
Ouais, mais il y a un moment où c'était marrant.
Non, j'aime bien les trucs bizarres, mais pas ça.
C'est Netflix qui a insisté pour le mettre. Sérieux?
Ouais.
Spider-Man New Generation, Fernando Pessoa, Sampha, Big Mouth. Voici donc la pop-liste de Timothée Chalamet en ce 4 février 2019. Bien, avant de parler du film My Beautiful Boy avec un Beautiful Boy, écoutons Beautiful Boy, le morceau de John Lennon.
Sailing away, I can hardly wait.
while you're busy making other plans.
Lennon, Beautiful Boy, c'est sur le dernier album de John Lennon, Double Fantasy, et malheureusement, cet album date de 1980. Retour en 2019, dans Pop Pop Pop, sur France Inter, avec un Beautiful Boy que nous sommes allés rencontrer. Mais attendez.
Je vous attends, Antoine, je ne sais pas, vous avez une impression de déjà vu, peut-être.
Déjà vu, oui.
Ou de déjà vu.
Exactement, ouais, comme dirait Beyoncé. Voilà. Ça fait exactement un an depuis notre dernier entretien, c'était pour Call Me By Your Name. Nous étions exactement au même endroit, dans le même hôtel, dans la même chambre, sur le même canapé, avec les mêmes micros.
C'est vrai, on est là ?
Exactement. Si je vous propose de faire dorénavant un point info une fois par an, toujours au même endroit, est-ce que...
C'est ici ?
Oui.
Tous les ans, on se rejoint ici.
Oui.
J'aime beaucoup cet hôtel, alors ça marche.
Si vous ne deviez garder qu'une image, un moment, une émotion de l'année qui vient de s'écouler, ce serait quoi ?
Oh, man. Franchement, ça pourrait être il y a 2 semaines, au Golden Globes, quand ma mère, elle a vu Dick Van Dyke sur le plateau. Elle était vraiment émouvée. Elle était vraiment émue, alors ça m'a frappé un petit peu, c'est vraiment, ça m'a frappé avec du gratitude parce que ça m'a jamais arrivé d'avoir un moment comme ça avec ma mère où j'avais un petit rôle en lui emmenant une expérience où elle était proche des gens qu'elle admirait beaucoup aussi, Tony Shalhoub et beaucoup d'autres aussi, ouais.
Vous venez aujourd'hui nous parler de My Beautiful Boy de Felix van Groningen, le Beautiful Boy du film C'est vous. Vous êtes Nick Chef, jeune homme brillant, cultivé, promis à un avenir radieux, sauf que Nick est devenu en peu de temps complètement dépendant à l'héroïne au point de devenir un véritable étranger pour sa famille et pour son père en particulier, dont il a pourtant toujours été très proche. Bande annonce.
I'm attracted to craziness, and you're just embarrassed because I was like, you know, I was like this amazing thing, like your special creation or something, and you don't like who I am now.
Who are you, Nick?
This is me, Dad, here, this is who I am.
Le film est inspiré d'une histoire vraie et basé sur 2 récits, ceux de David et Nick Chef, père et fils, que vous incarnez avec Steve Carell dans le film. Aviez-vous lu Beautiful Boy et Tweak, leurs ouvrages respectifs, pour préparer le film, et qu'est-ce que vous en avez tiré ?
Ouais, c'était un peu... c'était comme mes bibles pour ce film. Je restais très proche des 2 livres, surtout celui de Nick. Le film, il prend le point de vue de David, il prend plutôt le point de vue de son livre, du père. Notre film, ça sert. On n'a pas fait ce film en essayant de montrer l'addiction, le drogue dans la forme le plus pure. Il y a des films déjà comme ça, comme Trainspotting ou Heaven Knows What ou Christian F. Plutôt notre film, on a essayé de montrer ce que ça peut faire l'addiction, le drogue, pas non seulement à celui que ça rend malade, mais aussi aux parents, aux frères, aux sœurs, aux gens qui aiment celui qui est addicté. Et du coup, je suis resté très proche des 2 livres. Et si le livre de David est plutôt presque grec dans l'arc du rôle, celui de Nick, le livre, est beaucoup plus intense et il n'y a aucun sens du passé ou du futur. Tout est dans le présent, tout est sur...
le désir de trouver le prochain moment avec du drogue. Et pour, comme acteur, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai compris que ce, d'être dans ce, ce, cet état d'émotion, c'est de pas penser normalement, c'est de essayer de mettre un pied devant l'autre.
Est-ce que vous avez rencontré les chefs avant le tournage? Et est-ce que vous vous êtes senti une responsabilité particulière en jouant la souffrance d'un personnage réel en sachant qu'il verrait le film?
Une responsabilité énorme. Et même avant que je l'aurais rencontré, j'ai rencontré Nick et sa sœur Daisy avant qu'on commence le film. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, comme tu as mis la question, parce que c'est un humain. Qu'on est tous comme humains complexes, on a tous nos boutons sur le visage et ça m'a beaucoup aidé en lui rencontrant parce que je pense qu'il y a une pression non seulement sur les jeunes acteurs mais surtout sur les jeunes acteurs et actrices d'être masochiste, qu'on est que fort comme créatif, qu'on souffre et moi je pense que c'est dangereux et je pense que Meryl Streep et Leonardo DiCaprio, je pense pas qu'ils sont souvent, ou tout le temps, plutôt, en souffrant. Et en rencontrant Nick, j'ai vu que ça m'a beaucoup aplati, parce que tout d'un coup, j'ai vu, il y a pas un pont que je dois traverser à comprendre ce que c'est d'être addict. En fait, c'est ça un des thèmes centraux du film, c'est qu'il n'y a pas un visage à l'addiction, il n'y a pas une race, ou un classe économique plus affecté, ça affecte tout le monde. Et de se dire, comme le personnage du père dans le film dit, c'est pas nous, c'est pas notre famille qui expérience des trucs comme ça, c'est de mentir, c'est de pas comprendre l'addiction. C'est souvent aussi les gens, quelquefois quand ils voient le film, c'est pour moi c'est presque un test où maintenant je peux voir si les gens qui demandent des questions ont été proches de l'addiction ou sont affectés parce que quelquefois on nous demande mais j'ai bien aimé le film mais pourquoi on n'a pas compris pourquoi il est addicté. Mais le fait c'est que c'est pas notre film, c'est qu'il est addicté. Et on voit l'ego du père essayer de adresser cette question pourquoi ou qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je peux faire et c'est pas ça la réalité. La réalité pour les gens qui ont ce problème, c'est que c'est à eux à le fixer. Mmh. Mais quand même, que l'affection et l'amour et l'empathie et le désir humain des gens autour des addicts, ça doit être là. Parce que de battre ça au niveau d'alcool, c'est déjà fou. De le battre au niveau de l'héroïne ou meth, c'est encore plus difficile. Mais de le battre quand on est jeune, qu'on cherche toujours quand on est comme humain, quand on est toujours dans le supermarché à essayer de découvrir notre personnalité, c'est en tension avec le programme des 12 steps, d'essayer de devenir sober. Et c'est, on fait pas ça quand on est jeune, on essaie de exploser, de trouver la vie.
Votre père de fiction, c'est Steve Carell. Et lors de notre précédente rencontre, quand on vous a demandé votre série culte, vous nous avez répondu The Office US. Alors, c'est comment d'être le fils de Michael Scott?
C'était Michael Scott and Holly Flax, parce qu'il y a dedans aussi Amy Ryan. C'était très bizarre, mais je pensais qu'en tournant le film, ça serait plus bizarre si je leur ai dit le niveau du bizarreness que c'était pour moi. Alors, j'ai rien dit pendant qu'on tournait, mais une fois que c'était fini et maintenant qu'on fait promotion, il sait que je suis stalker et que et je sais tout sur lui et sur l'émission. Mais franchement, il y a beaucoup d'acteurs extraordinaires en France, en Angleterre aussi. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un de nos meilleurs, Steve Carell. Au niveau comédie aussi, The Anchorman, Evan Almighty, Bruce Almighty, The Office. Mais maintenant, au niveau dramatique aussi, Foxcatcher, The Big Short, Beautiful Boy, Vice, which is about to come out. Alors, j'ai beaucoup d'admiration et j'adore ce gars. And he's Michael Scott.
Mais est-ce que ça complique les choses ou au contraire, est-ce que ça les simplifie de jouer avec un acteur que vous admirez tant?
Des deux côtés. Du côté que je me sentais anxieux parce que c'est Michael Scott et il est très connu. Moi, j'ai pas de carrière et si même pas, je me fais virer. Ça m'a fait peur. C'était mon anxiété. Mais de l'autre côté, et j'ai souvent cette impression, genre j'avais cette impression quand je travaillais avec Matthew McConaughey aussi, ça peut t'aider quelquefois quand t'es en face de quelqu'un de très connu, Parce que souvent, on dit dans les classes d'acting ou de drame de s'enlever de ton imagination. Quand on passe nos vies normales, on n'a pas des miroirs autour de nous. On ne se dit pas qu'il y a un camarade. Et quand il y a Steve Carell, et surtout Steve, parce que je l'avais vu dans The Office, j'avais vu tellement... Il y avait même les expressions, je pensais, ok, pour être fille, c'est bon, parce que j'ai l'impression que je le connais.
Mais alors du coup, votre inquiétude n'était pas du tout d'à propos, puisque Steve Carell a dit que les essais que vous avez passés pour le film sont les meilleurs essais qu'il ait jamais vus. Est-ce que ça vaut pas toutes les cérémonies de prix?
Oh, c'est merci d'avoir dit ça, et merci d'avoir moi à Steve qui a dit ça aussi, mais... Le fait, c'est que la dernière fois que j'avais lu avec Steve, et je pense pas que j'ai dit ça avant, mais il y avait quelques autres acteurs qui lisaient avec lui, et les autres acteurs, ils ont eu tous les rôles dont avant on avait lu pour les mêmes rôles. Alors j'avais vraiment en énergie en allant, like, I don't give a fuck, ça, je vais vraiment me lancer. Je l'encontre, je passe le temps avec Steve, et le plus qu'on parle du film, j'avais une confiance que j'avais pas compris, était pas donnée, mais qui avait tout de suite avec Steve et aussi avec Army pour Call Me By Your Name, et d'être, j'étais complètement en confiance avec lui. Il y avait aucun moment où je me sentais jugé ou c'était super. Franchement, c'est vraiment un gars super. Ouais.
Vous vous retrouvez une nouvelle fois dans un film avec une relation entre un fils et son père. Mmh. Est-ce que ce moment de la vie, c'est toujours une source d'enjeux conflictuels pour vous?
Non, pas dans ma vie, mais en grandissant, je pense qu'il y a deux moments de très intéressants comme enfant et comme parent. J'ai pas eu l'expérience, bien sûr, comme parent, mais comme enfant, il y a l'expérience où un jour tu vois tes parents et tu te dis, merde, c'est des adultes, c'est des humains, ils ont pas un livre avec toutes les réponses. Et je pense, ce que je viens de dire, c'est le contraire en Call Me By Your Name, où le père, joué par Michael Stuhlbarg, il a une disposition sur la vie qui est vraiment presque some Socrates, ou qui vraiment comprend la vie. Mais de l'autre côté, en Beautiful Boy, je pense qu'à un jeune âge, Nick voyait l'adulte. Quand tu vois ton père qui essaie de faire tout à te sauver, tu vois l'humain dedans, tu vois les boutons sur le visage. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a un moment, comme parents aussi, on voit ça dans My Beautiful Boy, où tu rencontres, c'est leur vie, mon enfant, c'est leur vie maintenant, et je peux essayer de leur aider, mais au bout d'un moment, c'est des adultes, et tout le monde a cette expérience, je crois, tout le monde.
Vous avez plusieurs grandes scènes dans le film, et notamment une qu'on voit dans la bande-annonce, donc je ne dévoile rien, dans un diner, une conversation hyper dure, compliquée. Comment est-ce que vous avez abordé cette scène en particulier?
Alors ça, c'était le deuxième jour du tournage, et là, c'était important de jouer la manifestation d'être défoncé sur methamphétamine, parce qu'il est très agité dans la scène, il ment partout, il a aucun sens stratégique, il est près de la mort du point de vue de son père. Et on a fait peut-être 20 essais de cette scène, on a fait toute la journée, et comme j'ai dit avant, pas dans tous les rôles, il faut que tu as un sens d'honneur avec l'acteur avec qui tu joues. Tu peux pas être coincé dans ce que tu fais, ça devient égoïste. Mais dans une scène où tu joues l'égoïsme en quelque façon, tu joues quelqu'un qui a aucun considération pour sa famille, c'est que pour la prochaine journée, pour le prochain high, le prochain drogue. Et j'étais tellement chanceux de faire ça avec Steve aussi, qui vient du monde comédie, de improvisation, où moi comme acteur, je sais qu'il y a presque deux écoles. Il y a les acteurs qui veulent savoir exactement ce qu'ils vont faire dans la scène, qui veut être complètement sans l'habilité de voir l'esprit dedans. Et moi, ça c'est moi, je suis de l'autre côté. Moi, j'aimerais mieux voir l'acteur ne pas savoir ce qu'il va faire dans la scène et qui fait quelque chose ou elle fait quelque chose vraiment bouleversant.
Pour préparer Call Me By Your Name, vous avez appris à parler italien. Qu'avez-vous eu à apprendre pour jouer Nick?
Il avait peut-être plus la responsabilité parce que c'est un personnage vrai, c'est quelqu'un de vrai. C'est une histoire très sensée, même indépendant des drogues ou addictions, c'est des thèmes très particuliers de la famille. Alors c'était de devenir proche de Nick, mais de comprendre l'histoire, de comprendre ce que c'est d'être dans les throes of addiction. Et on peut faire beaucoup à faire ça. J'ai parlé à plein d'addicts, j'ai passé beaucoup de temps sur l'internet en voyant ce que c'est d'être high on heroin ou high on methamphetamine. Mais encore, comme je disais avant, je pensais que c'était plus important par rapport à les séquences de drogue, parce qu'il y a des films qui sont sur ça, de comprendre ce que c'est d'être dans un rehab ou dans des meetings, d'essayer de devenir sober, non seulement dans la vie, mais surtout quand on est jeune. Il y a une réunion pour les alcooliques à New York qui sont seulement pour les jeunes qui n'ont jamais eu un boisson alcoolique légale. À 21 ans, aux États-Unis, on peut boire légalement. Et cette réunion, c'est pour les gens qui se considèrent alcooliques sans jamais avoir pris un boisson alcoolique légalement. Ouais.
Vous qui avez joué Casey Affleck jeune dans Interstellar, James Franco jeune dans Beyond Lies, qu'est-ce que ça fait d'avoir pour la première fois dans un film un acteur qui vous joue, vous, jeune?
Ah oui, c'est vrai, j'ai jamais pensé dans ce façon. Et c'est il y a un autre niveau de bizarrerie, qu'il n'y a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a quatre jeunes Nick. Il y a quatre, il y a le 7 ans, il y a le 10 ans, il y a le 12 ans et moi. Alors, ça fait bizarre de voir quelqu'un qui te ressemble, surtout un acteur Jack Dylan Grazer qui est très bon dedans. Et j'ai l'impression qu'on a le même marche même. Alors, ça m'a déstabilisé. Mais quand je faisais des répliques avec Steve un jour, Jack est rentré, il n'avait pas rencontré Steve, il a dit « Michael Scott !» Et j'ai dit à Steve après, c'est ça que je voulais dire quand je t'ai rencontré, mais j'essayais de garder mon cool. Alors j'ai rien dit, mais you're fucking Michael Scott, man!
Vous tournez avec un réalisateur belge, hein, après l'italien Guadagnino. Vous êtes franco-américain. Vous sentez de vraies affinités avec le cinéma européen?
Ah ouais, absolument. Bon, déjà, j'ai l'impression que je dois ma carrière à le cinéma européen. J'ai fait Call Me By Your Name en Italie avec un réalisateur italien, un histoire italien avec du sound department, le son, un département français, avec l'équipe maquillage italien-argentin. Alors, ouais, je me sens très proche des... C'était vraiment une expérience vraiment internationale. Mais aussi, Beautiful Boy, Félix, il a vraiment fait un job extraordinaire, parce que c'est vraiment un film américain. Par ça, je veux pas dire Hollywood, c'est surtout pas un facile film de ce niveau. Mais non, et en grandissant aussi, soit La Grande Vadrouille ou Umberto D ou Le Ballon d'Or ou
La Boum.
La Boum, j'adore La Boum. Ouais. Ou les parapluies de Cherbourg. C'est des films extraordinaires, ça. Alors.
Oui, mais Timothée, ouais. Vous exprimez beaucoup mieux que la plupart des acteurs français. Alors,
c'est vrai.
Oui. À quand un film français?
Ah, ça serait trop bien. Il y a tellement de réalisateurs français que j'adore.
Ouais. Et déjà, Timothée va tourner en France.
Mais c'est ça. Comment est-ce que vous trouvez la région d'Angoulême? Parce qu'il paraît que Wes Anderson tourne là-bas et vous faites partie du casting.
Alors déjà, il y est. Je savais pas, mais il tourne déjà là-bas. Et moi, je commence en février. Et c'est à Angoulême. J'ai jamais été. J'ai fait le quotidien hier. Et Yann a dit dans le caméra, tout le monde à Angoulême, dis bonjour quand vous attendez les acteurs. Mais non, ça va être super. Et c'est vraiment un de mes réalisateurs plus préférés, Wes Anderson. Et alors, ça va être super. Et c'est un film français en plus. Oh, ouais, bon, un film qui se passe en France, mais tourné en France.
Bah, ouais. De toute façon, on en reparlera exactement dans un an, ici,
dans cette chambre,
sur ce canapé.
Super, bon. Merci.
Merci beaucoup, Timothée. Merci.
France Inter. Antoine Decaune.
Et voilà, rendez-vous donc l'année prochaine dans Pop Pop Pop. Et en attendant, nous vous conseillons vivement My Beautiful Boy, le film de Felix van Groningen, qui sort mercredi. Ah ben voilà, je savais, il m'a troublé aussi, j'ai oublié de lui demander s'il savait faire ça.
Je suis sûr qu'il sait le faire. Hein.
Et vous savez le faire?
Non.
Bon. Enfin bon, c'est pas grave, c'est juste pour lancer les pop news.
Cette nuit, outre-Atlantique, c'était donc la 53e édition du Super Bowl qui a vu la victoire du New England sur Los Angeles. Je ne sais pas du tout ce que je raconte, mais j'y vais avec conviction. Et la mi-temps est traditionnellement l'occasion de découvrir publicité, trailer et show musical. Alors nous ne nous attarderons pas ici, hein, par pur esprit de charité, sur la performance de Maroon 5, qui vaut au spectacle d'être surnommé Superboard, malgré le Teton Gate. Adam Levine y a dévoilé son torse. On se rappelle juste que Janet Jackson s'est fait vilipender pour moins que ça. En revanche, quelques bandes annonces des plus excitantes ont été diffusées, notamment celle des Scary Stories to Tell in the Dark, adapté des romans pour enfants d'Alvin Schwartz, et dont la version ciné est produite par Guillermo del Toro Ambiance.
This summer, from Guillermo del Toro.
Don't be
Ça suffit à me terroriser, hein, je vous le dis tout de suite. Scary Stories to Tell in the Dark, ce sera le 9 août sur les écrans.
Teaser qui fait peur aussi, mais cette fois pour une série, la saison 3 de Handmaid's Tale, la série dystopique d'Hulu, s'annonce sous forme d'un avertissement à l'Amérique de demain et d'aujourd'hui.
It's morning again in America. Today, more women will go to work than ever before in our country's history. This year, dozens of children will be born to happy and healthy families. It's morning again.
It's morning again. It's morning again.
Wake up, America. Morning's over.
La Servante Écarlate, saison 3, prochainement sur OCS.
Et je vous le disais, pour les amateurs de musique, la mi-temps du Super Bowl n'est pas vraiment ce qu'on a fait de mieux. En revanche, avant le match, il y avait un concert assuré par les Foo Fighters, par Tom Morello de Rage Against the Machine, par Roger Taylor de Queen et Run the Jewels. Ben voilà, les Foo Fighters, voilà. C'est ça qu'on veut.
Ben oui.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaux.
Oui, c'est moi.
La voix de la peur de la série de Guillermo del Toro.
Pas du tout. Arnold Schwarzenegger, s'il vous plaît.
Mais oui. Ça manquait d'accent.
Alors avant de parler muscles, pop culture et Arnold Schwarzenegger, justement, écoutons le morceau dont nous parlions tout à l'heure avec Timothée Chalamet, présent dans la BO du film My Beautiful Boy, Territorial Pissings de Nirvana. Extrait de la BO de My Beautiful Boy, le film avec Timothée Chalamet, Nirvana, Territorial Pissings, c'est extrait de Nevermind, monstre sacré de la pop culture. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et vient de nous rejoindre celui qui est fasciné par ce bodybuilder que nous avons découvert il y a près de 40 ans en mini-slip.
Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes par exemple.
Bonjour Jérôme Mamsilovic.
Bonjour.
D'où vient cette fascination pour ce bodybuilder que nous avons découvert il y a près de 40 ans au mini-slip ?
Oh bah il y a alors c'est pas le mini slip, il y a un facteur générationnel, c'est évident. Moi j'avais d'ailleurs le morceau qu'on vient d'écouter là, c'est 91, Nirvana. Donc évidemment Schwarzenegger c'était l'inverse, enfin l'autre bout du spectre à l'époque. Ouais. Et 91 c'est Terminator 2. Voilà, moi ça a commencé comme ça. J'avais 11 ans, enfin j'avais 12 ans et j'ai découvert Terminator 2 et j'ai découvert ce corps complètement aberrant et qui remplissait au-delà de ce qu'on pouvait souhaiter son office hollywoodien quoi, c'est-à-dire d'impressionner le spectateur, et voilà.
De toute évidence, vous n'avez pas poussé la fascination jusqu'à vous mettre vous-même à la musculation.
Ah bah, je vous en prie, je vais faire un bras de fer.
C'est de la radio, ça ne se voit pas.
C'est vrai, ça ne se voit pas.
En tant qu'acteur, qu'est-ce que vous lui trouvez de plus que les autres, en dehors des quelques kilos de barbac qu'il sépare du commun des mortels?
Alors pour moi, il y a plusieurs choses. D'abord, il vient vraiment d'une tradition de monstre hollywoodien, et je crois qu'on a un peu rompu avec cette tradition, malheureusement, aujourd'hui, pour diverses raisons. Mais quand je dis monstre, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire au sens où Marilyn était un monstre, même Maccabi, c'est-à-dire vraiment le monstre au sens de l'étymologie. Celui qui est là pour être montré, qui est là pour être regardé. Et justement, moi, ça a été ça le point de départ aussi, c'est que j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de prophétique, au fond, dans cette œuvre. C'est vraiment une œuvre, les films sont très cohérents, racontent un peu tous la même chose. Et il me semblait qu'il était venu pour nous annoncer ce qui nous attendait. Et je trouve que les dernières années nous l'ont confirmé largement.
On va y revenir, mais dimanche, Arte diffuse Terminator, le jugement dernier, Terminator 2, de James Cameron, à 20h50. Et juste après, La Fabrique d'Arnold Schwarzenegger, le doc que vous avez réalisé avec Camille Jusa. Mais attendez, Terminator, c'est pas hyper Arte compatible. Hein. Qu'allez-vous dire à ceux qui attendent Cri et chuchotement en VO, le film d'Ingmar Bergman, en version uncut de 12h20 hein. C'est le côté austro-français qui a séduit la direction?
Alors, en tout cas, le côté américain leur a fait un tout petit peu peur. Dans un premier temps, ils trouvaient ça un petit peu trop américain, Schwarzenegger, et c'était difficile de les contredire. Mais je pense que c'est absolument de la culture, dans la mesure où, il est venu nous...
Cocher des convaincus, là.
Oui, voilà. Mais ça n'a pas été très dur de les convaincre chez Arte, à vrai dire. Et puis moi, j'avais publié il y a 2 ans maintenant un livre sur le sujet qui avait un tout petit peu pavé la voie, disons, à cette intention-là. Mais je pense qu'ils étaient très contents, et j'espère qu'ils sont contents en tout cas de diffuser ce documentaire aujourd'hui.
Bien. Petit extrait de la bande-annonce.
Personne n'a oublié le nom d'Arnold Schwarzenegger. Son histoire est l'un des derniers grands mythes de l'Amérique.
Please welcome a man whose story embodies the American dream.
Un géant, un vrai monstre qui a nourri nos propres rêves autant que nos cauchemars.
Alors presque 40 ans plus tard, Schwarzenegger a fait le tour de la planète pop et avec, grâce à des archives et des interviews improbables, vous expliquez dans ce doc que Schwarzy est un des derniers grands mythes de l'Amérique. Pourquoi un des derniers grands mythes? Pourquoi est-ce que ce moule se serait cassé?
Parce que je pense que l'Amérique aujourd'hui peut plus avoir le même rapport au rêve, à ce vieux mythe du rêve américain que lui a incarné, mais alors vraiment au-delà de je pense de tout ce qu'on avait fait jusque-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cartoon absolu avec Schwarzenegger. Et je pense qu'il y a une innocence dans la façon qu'il a eu lui de s'atteler à ça, parce que c'est vraiment littéralement un enfant qui rêvait d'Amérique, qui rêvait de l'image de l'Amérique et qui a voulu devenir ça. C'est aussi simple que ça, et qui a réussi à le faire, et qui à partir de là évidemment est devenu vraiment la réclame vivante de tout ça. Il a fini de prêcher cette histoire-là.
Ouais, c'est comme vous le dites très bien, l'incarnation du self-made man au sens littéral du terme.
Voilà, vraiment au sens absolu. C'est celui qui a fabriqué son corps, qui a fabriqué son succès, qui a tout fabriqué lui-même.
Mais alors c'est lui qui a réussi à devenir cette incarnation de l'Amérique selon les critères américains ou selon ses critères à lui en fait, qui ne sont pas exactement les mêmes sur le départ? Est-ce que je veux dire, lui l'idée qu'il a de cette incarnation de l'Amérique et ce que l'Amérique a comme idée de sa propre incarnation?
Ben là, pour le coup, moi, je vois pas une grande différence entre les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il a été très très fidèle. Justement, c'est pour ça que son parcours était aussi littéral par rapport au mythe. C'est qu'il a été très très fidèle à ça. En gros, surtout que c'est un enfant de l'après-guerre qui grandit en Autriche. Ça ne doit pas être très facile de grandir en Autriche, dans un coin paumé, montagneux, dans ces années-là. Et c'est quelqu'un qui s'abreuve, comme tous les gamins de l'époque en Europe, des images de l'Amérique conquérante, qui sort de la Seconde Guerre, qui a sauvé le monde, etc., etc. Donc lui, il avait vraiment un besoin absolu de fuir ce contexte et de trouver un pays à sa mesure. En gros, c'était ça. Mais c'est quelque chose qui s'est joué vraiment très très jeune pour lui.
Pour le réalisateur M. Night Shyamalan, que nous recevions il y a peu, la pop culture, c'est Donald Trump. Est-ce que justement pour vous, Jérôme Momcilevitch, la pop culture, ce n'est pas cette incroyable histoire d'un bodybuilder qui finit par devenir gouverneur de Californie, en fait?
Alors pour moi, c'est exactement ça. Et je dirais même, et en dépit de tout l'amour que j'ai pour le cinéma de Shyamalan, que je pense que c'est l'inverse de Trump. C'est-à-dire que, alors évidemment, il y a un continuum quand même en termes de politique spectacle. On a vraiment Reagan, Schwarzenegger et Trump. Et en même temps, je pense que Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui a poussé très très loin cette éternelle idée américaine que l'Amérique, ça doit être la rencontre exacte du rêve et de la réalité. Voilà, c'est le moment où la réalité rejoint le rêve. Idéologiquement, Trump, c'est quelqu'un qui vend du réel. Alors on sait qu'il ment en permanence, mais en même temps, la logique de tous ces discours, c'est toujours de dire que tous les autres font des fake news et lui apporte la vérité. Et je pense qu'il n'y a aucune espèce de trace de rêve au sens classiquement américain chez Trump. Et d'ailleurs, les deux s'entendent pas du tout, ça c'est notoire. Schwarzenegger déteste assez vivement Trump. Donc je pense pas, évidemment c'est une question qu'on m'a beaucoup posée après le livre et qu'on nous pose aujourd'hui avec Camille Jusa au sujet du film. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de rapport entre Trump. Et pour moi, Trump, au contraire, c'est ce qui sanctionne vraiment l'idée qu'on est sorti définitivement de ce rapport enfantin, naïf au rêve américain, car incarné plus que les autres Schwarzenegger.
En tous les cas, pop culture et politique sont ici étroitement liés, car avant même de quitter son poste à l'issue du second mandat, Schwarzenegger a lancé avec Stan Lee un comic intitulé The Governator, comic qui raconte comment Schwarzenegger devient un super-héros après s'être retiré de la vie politique. C'est pop à mort ou c'est la définition de la politique spectacle?
Alors ça c'est extraordinaire, d'ailleurs c'est un regret parce qu'on a dû renoncer à ces images-là dans le documentaire, mais on trouve toujours une bande-annonce, parce que la série ne s'est pas faite finalement, enfin le dessin animé s'est pas fait, mais il y a eu une bande-annonce qu'on trouve sur YouTube aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est que justement on se disait que ayant bifurqué vers la politique, il n'allait pas revenir au spectacle, en tout cas au cinéma. Et en fait, voilà, le sujet de ce dessin animé, c'était quand même l'idée de Schwarzenegger lui-même qui quitte ses fonctions politiques et qui, dans le secret de la cave de sa villa, est un super-héros qui va s'en prendre aux... Alors c'est un acronyme, les Girly Men. En fait, ce terme, en gros, qui veut dire lopette, et qu'il avait employé, lui, évidemment, ça lui a valu beaucoup de problèmes, mais qu'il avait employé pour désigner les démocrates à l'époque, sont les méchants d'un dessin animé produit par Stan Lee. Donc ça veut dire une chose très précise quand même, c'est qu'il n'y a plus aucune frontière dans le monde de Schwarzenegger entre la réalité et la fiction.
Alors très étonnamment, dans son parcours de comédien, il n'a jamais vraiment cherché à s'extraire des rôles de type action et testostérone. C'est une question de volonté ou une question de circonstance?
C'est une question d'argent, beaucoup. C'est ce qu'il dit dans une archive qu'on a montée, là, qu'on aime beaucoup, dans laquelle il explique « je pourrais très bien vouloir faire autre chose que ça ». Il dit « mais si c'est pas ce que le public attend de moi, alors le film finit aux toilettes et personne ne gagne d'argent ». Donc il y a ça. Et je pense que c'était son intelligence aussi, justement, de savoir... Ça a été dur quand même pour un corps pareil de trouver sa place à Hollywood. Ouais. C'est-à-dire que les premières années, ça on le raconte aussi, personne ne sait quoi faire de lui. Et quand on finit par comprendre ce qu'il faut faire de lui, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut le présenter comme un corps étranger. On peut pas demander aux spectateurs de s'identifier à un bazar pareil, ça peut pas marcher. Donc c'est toujours un alien dans les films. Et au fond, lui savait très bien qu'il ne pouvait jouer que ça. Et en même temps, ça a ouvert un champ d'expérimentation génial. C'est-à-dire Schwarzenegger... À l'échelle de toute la filmographie, il y a quand même beaucoup de navets, tout le monde en conviendra, mais il y a 3-4 très très beaux films quand même, dont les Terminator, évidemment, Predator, Total Recall. Et il n'y a que lui qui pouvait jouer ça. Il fallait un corps aussi étranger que ça, aussi exotique pour jouer ça.
Sujet passionnant, documentaire qui l'est tout autant, ça s'appelle La Fabrique d'Arnold Schwarzenegger, c'est signé Camille Jusa et Jérôme Momcilovic, c'est diffusé dimanche sur Arte à 23h10, juste après Terminator 2. Jérôme, on approche de la fin de l'émission et il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle, alors j'y vais. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer, moi? Oh, mais Siri! Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe?
Tu n'as pas honte de te pointer ici, bâtard?
Non, mais Siri, ça va pas? Puis, attends, je vais pas me laisser insulter par mon assistant personnel. Qu'est-ce qui t'arrive?
Assistant personnel, ça fait 6 mois que tu ne m'actives plus, que tu ne me parles plus, que tu ne me touches plus. Et là, tu me fais ça?
Je te fais ça quoi, là?
Tu parles pendant des plombes de Terminator, ce vieux robot de merde, et tu ne m'invites même pas.
Bon, d'abord tu vas rester poli, et puis attends.
J'attends rien, enculé.
Attends Siri, tu restes poli, on est sur France.
Espèce de petite pute.
Bon, ok, allez, un peu de musique, ça va détendre tout le monde, hein. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Ah oui, je sais, tiens, un petit Stéphane Echer, combien de temps?
Sac à merde.
Mais bon, ça va, j'ai compris, allez, dégage. Dégage. Combien de temps, Stéphane Echer? C'était en 87 sur l'album Silence et personne ne s'est encore remis de ce concert sublime de samedi soir au Grand Rex de Paris. Bien, merci à Timothée Chalamet d'être repassé dans Pop Pop Pop. Je rappelle que My Beautiful Boy, le film de Félix Van Groningen, sort mercredi. Merci Jérôme Momcilovic. La fabrique d'Arnold Schwarzenegger, c'est dimanche sur Arte à 23h10, juste après la diff de Terminator 2, à ne rater sous aucun prétexte. Demain dans Pop Pop Pop, lui.
Je suis parti voir les ours polaires.
Il est parti voir les ours polaires, c'est Tim Dup qui sera en live sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Et avec nous également demain, le chanteur préféré de François Hollande, Fouet. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuval à la pointe, suivez-nous, plutôt comme dit Schwarzy, à la fin de ses tutos make-up sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast.
Non, mais là, il a l'accent anglais, ça ne marche pas du
non,
tout.
J'ai fait Karl Lagerfeld là-bas. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop pop pop, sur Instagram et Twitter.